Ça va toi aujourd'hui?
Là je me sens bizarre.
Qu'est-ce qui se passe?
Je suis pas du tout, je te touche. Là j'ai encore un truc à dire.
Non, ça va pas trop.
Oh là là, je me sens bizarre. Non,
c'est comme chez un psy, je raconte.
J'ai encore un truc à dire.
Qu'est-ce qui se passe ici?
Mais qu'est-ce qu'on raconte?
Bah ouais, on passe à la radio.
Silence Radio, la radio des schizos, la radio des parano, la radio des gens pas réglos.
Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices, ravis de vous retrouver, vous écoutez Silence Radio et vous êtes sur les ondes de Radio Panique. Nous sommes sur le 105.4 FM Silence Radio. C'est une autre manière de parler de santé mentale et ses liens avec la société. Au programme ce soir, le dire ou ne pas. Pas le dire, deux points, le coming out en santé mentale. Dire un peu, beaucoup, tout à nos proches, notre amoureuse, notre amoureux ou encore notre employeur. Dire notre inconfort, nos douleurs, nos tracas, nos petites et grandes angoisses quand ce n'est pas notre diagnostic ou nos secrets les plus intimes. Dire, se taire, le choix n'est pas simple et appartient bien sûr à chacun, à chaque usager. En studio ce soir pour Silence Radio, Thomas, bonsoir.
Bonsoir.
Thomas. Valérie, bonsoir. Valérie.
Bonsoir.
Gwendoline.
Bonsoir, bonsoir.
Qui ne vient pas toute seule puisqu'elle lira un poème avec Daniel. Bonsoir Daniel.
Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes.
Nous recevons aussi des invités. Nous avons ce soir en studio Fatia. Bonjour Fatia.
Bonsoir.
Thierry. Bonjour Thierry.
C'est Christophe Champagne. Bonjour.
Ben voilà, je confonds tout.
Oui, c'est mon prénom. C'est Thierry Courbeau. Voilà, ceux qui l'ont entendu, c'est pas bien grave. Voilà.
C'est pas bien grave. Voilà, bonsoir Christophe. Et nous avons aussi Michael. Bonsoir Michael.
Bonsoir Pascal.
Qui ne vient pas tout seul puisque nous avons aussi...
Sylviane, bonsoir à tous.
Sylviane, et bien sûr, en régie, notre Aurélie qui travaille à Silence Radio depuis si longtemps.
Et en studio aussi, Yannick, ici
oui,
présent.
Bonsoir quand même. Hein. C'est pas grave, il y a des choses qu'on ne dit pas ou qu'on dit.
Oui, excuse-moi Yannick, mais ce n'était pas prévu au programme. Bon, voilà. Pas de grandes théories ce soir, mais des mots et des idées qui viennent tout droit du cœur et de la tête. Nous sommes tous usagers autour de la table, je pense bien, ou presque. On va donc causer entre nous. Alors, première question, répond qui veut. Avez-vous tendance, vous personnellement, à parler autour de vous de, entre guillemets, vos difficultés? Qui a envie d'intervenir?
Ouais.
Yannick.
Assez facilement. Peut-être un peu trop parfois.
Un peu trop.
Mais assez facilement en général, et plus pour démystifier la chose, et plus pour que si jamais il y a un problème, les gens ne soient pas à ne pas savoir quoi faire, qu'ils ne tombent pas des nues en gros. Donc, voilà.
Voilà.
Et à une certaine époque où je me présentais comme ça tout le temps.
Et tu dis peut-être parfois un peu trop, et tu dis aussi comme ça, si jamais t'es vraiment un peu trop loin, les gens peuvent prendre soin de toi peut-être.
Oui, c'est ça. C'est en soi que s'il y a un moment, il y a un moment de problème ou un moment où ça va vraiment pas bien, bah, les gens qui me connaissent ou qui sont dans l'entourage, même qui me connaissent peu, se disent « Ah mais il y a ce problème-là, donc ils vont peut-être plus pouvoir réagir plus vite dans la bonne manière sans se dire que ça peut être à cause de prise de drogue ou à cause d'autre chose ». Mais pouvoir réagir vraiment plus vite et ne pas, pendant je ne sais pas combien de temps, se demander qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on doit faire. Mmh. C'est pour ça que moi, cette idée de coming out psychiatrique, je trouve ça plutôt pas mal, dans le sens où c'est vrai que c'est la vie privée qu'on balance assez facilement, mais on n'est pas obligé de parler de tout, mais c'est aussi pour démystifier la chose et aussi pour... Oui, pour se sentir un peu plus rassuré, pour si jamais il y a quelque chose qui se passe. Je sais que dans certains endroits, où, au début où je l'ai eu, où moi je ne savais même pas ce que j'avais, c'était compliqué à gérer parce que je ne comprenais pas ce qui arrivait, mais mon entourage non plus. Donc à partir de ce moment-là, c'est problématique. Et que moi, c'est ma propre idée à moi, hein, mais que je me dis que ce n'est pas quelque chose qu'on doit nécessairement cacher, les problèmes-ci. Donc voilà.
Et si j'interprète pas mal tes propos, ce serait une manière que si à un moment tu es en crise, qu'il y aurait peut-être un début de crise, mais qui serait vite contrecarrée par les proches qui tu l'as dit et que tu ne tombes pas dans une crise où tu, où tu t'isoles un peu de trop ou des
choses. Tout à fait, c'est ce qui s'est déjà passé pas mal de fois pour moi, mais que ce soit Radio Panique, même avec les gens de Psylon, d'autres lieux ou mes amis, c'est des choses qui se sont déjà passées et qui permettent justement au fur et à mesure du temps où que ce soit moi ou l'entourage proche ou moins proche commence à voir les signes. Et du coup, ça peut pallier à peut-être éviter l'hôpital, à peut-être avoir les bons réflexes dans ces moments-là. Je sais pas, moi, je sais qu'un truc, quand je vais pas bien, c'est aller me réfugier à la campagne ou dans des endroits où, de mon passé. Et c'est des choses que je faisais pas avant, où je laissais aller les choses. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi je m'enfermais, mais je leur disais pas nécessairement pourquoi. Et à partir de ce moment-là, on va me glisser dans l'oreille, t'irais pas un peu prendre l'air ou un peu te faire du bien ou des choses comme ça.
Mais comment les gens ont réagi à tout ce que tu leur disais, en fait ?
Ça dépend des gens. Des gens qui ont déjà vécu ou qui sont dans le milieu psy ou qui ont déjà eu des proches dans le milieu psy ou qui sont ne fût-ce qu'un peu sensés vont plus ou moins réagir. Enfin, je ne dis pas que j'ai des amis qui ne sont pas sensés, mais il y en a qui ne connaissent pas du tout le monde de la psychiatrie et qui ne veulent certainement pas le connaître. Eux, tout ce qu'ils connaissent, c'est ce qu'ils ont lu dans les livres d'histoire avec les asiles de fous début 20e ou des années 70. Et ils vont se dire, un fou, c'est un fou. Et ils restent fous tout le temps. Donc, il y en a certains, quand je leur dis ça, ils me disent, mais non, tu as réussi à profiter du système et tu as été très intelligent. Tu as joué l'acteur quand tu étais en crise, alors que c'est complètement faux. Mais c'est des choses que j'ai déjà entendues. Et que, il y a des gens qui sont bloqués vis-à-vis de ça et qui ne veulent vraiment pas se rendre compte que ça existe et que ça peut exister dans leur entourage.
Oui, Sylviane.
Je voudrais prendre la parole parce que moi, je ne connais pas du tout les maladies psychiatriques. Par contre, j'ai pris la responsabilité d'un groupe bouddhiste. Et dans ce groupe, j'ai eu plusieurs personnes avec des problèmes bipolaires. Et donc, je n'étais pas du tout préparée. Et moi, j'ai pris ça, en fait, à la rigolade. Je ne savais pas que c'était une maladie. Donc, quand il y avait une personne qui n'était pas bien, je disais à l'autre, écoute, apparemment, elle est bipolaire, donc t'inquiète pas. Et elle l'a mal pris, cette personne, parce que ce n'est pas elle-même qui l'a dit. Je crois que si elle avait dit elle-même, c'était différent. Mais moi, c'était juste par protection. Et je ne voyais pas ça comme une maladie au départ. Mais j'ai appris, à force d'expérience, que ce n'est vraiment pas quelque chose de facile à vivre. Autant pour la personne qui est enfermée dans cette maladie, quelque part, que pour la personne à côté qui veut être dans l'amour. Mais ce n'est pas simple, quoi. Donc,
mais quel rôle tu jouais dans ce groupe ? J'ai pas compris.
En fait, c'est simplement un groupe bouddhiste et donc on accueille toute personne sans, il n'y a aucune limite. Et donc, évidemment, il y a énormément de dialogue, on apprend à connaître les gens. Mais c'est comme dans n'importe où dans la société, on n'est pas toujours prêt je ne sais pas si on peut dire assumer, mais être au mieux dans une relation avec quelqu'un qui est dans une situation délicate. Bon, je ne sais pas très bien les mots adéquats. Mais...
Accepter peut-être
Non, mais il y a des fois, il faut savoir réagir. Par exemple, Michael, c'est un ami. Je vois que quand il devient stressé, qu'il n'est pas bien, je sais qu'il doit se reposer, par exemple. Ça, je le sens, mais maintenant, avec l'expérience, je le sais. Il a vraiment besoin d'être en sécurité, quoi. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Donc, voilà.
Et dans ton groupe bouddhiste, alors, donc, il y a une personne qui était bipolaire. Et au départ, tu prenais ça à la rigolade, tu disais. Et puis, en fait, après, tu as pris conscience que c'était une maladie. Et comment s'est passée cette prise de conscience ? Tu as été vers la personne qui t'a parlé ? Ou alors, est-ce qu'elle t'a parlé facilement ?
Dans le groupe bouddhiste, les personnes demandent à ce qu'on vienne pratiquer chez elles quand elles ne sont pas bien. Et puis alors, on commence une méditation, donc une pratique, mais active. Chez nous, c'est une pratique active. Et donc, à partir de ce moment-là, la personne, après, elle commence à dialoguer, on s'ouvre, on parle de cœur à cœur. Et puis, elle a commencé à me raconter son histoire, tous ses soucis, etc. Et il y a un moment où elle n'était pas bien et je revenais du travail et j'ai senti qu'elle n'était pas bien. Je l'ai appelée et elle a commencé à me parler comme ça, mais je sentais qu'elle n'arrive même plus à prononcer des mots. Donc je suis partie la voir et on l'avait mis avec une dose de médicaments invraisemblables et qu'elle était comme un légume, quoi. Et là, c'était choquant parce que son psychiatre ne voulait pas la voir. Il y avait des dates bien précises. Entre ces dates, voilà, il ne pouvait pas la voir. Je trouve ça difficile. Moi, à ce moment-là, je ne savais pas comment réagir, quoi. J'ai contacté une autre personne qui a dit, bon, demande-lui de diminuer sa dose pour qu'elle ne soit pas comme un légume quand même, quoi. Voilà un exemple. Mais
c'est peut-être ça aussi justement le problème, et se dire quand dire et quand pas dire qu'on a un problème psychiatrique. Parce que dans le fait d'avoir un problème psychiatrique, il y a aussi l'acceptation de soi d'avoir le problème psychiatrique. De se dire, il est là, je pourrais faire pour essayer au fur et à mesure des temps avec mes thérapeutes ou avec mes amis ou avec d'autres, faire pour que ça se règle et pour qu'avec le temps, ça, les crises ou les choses, peu importe, que ce soit être schizophrène, entendre des voix ou être bipolaire ou être... ou avoir un burn-out au boulot, c'est juste accepter de l'avoir. Et une fois qu'on a accepté de l'avoir, c'est peut-être plus facile après d'aller vers les gens, d'en parler. Mais moi, je sais que pendant un moment, le fait aussi d'en parler, c'était pour me protéger, mais c'était aussi pour le fait de l'entendre dire et de me dire, bah, c'est une réalité à laquelle je dois faire face.
Le dire à soi, c'est un préalable, alors.
Je crois.
Ouais. Valérie, tu voulais dire quelque chose ?
Moi, j'ai une attitude plus différente par rapport à cette question. Souvent je ne le dis pas, la plupart du temps j'en parle pas de mes problèmes psy, et j'ai l'impression que ça m'ouvre plus de portes. J'ai énormément de mal en fait avec les jugements dans les cas où j'en parle, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de jugements. Et il y a une autre barrière, ce sont les mots. Je ne me retrouve pas dans le vocabulaire que les médecins psychiatres utilisent. Et quand j'utilise mon propre vocabulaire, ben souvent, en fait, on dit que je délire, alors que pour moi, j'utilise juste d'autres façons pour décrire des vécus.
Ok. Quelqu'un d'autre, Patia, t'as pas envie de réagir ?
Ben, personnellement, je le dis beaucoup trop facilement et je le dis très très vite. Et je crois que je le dis par rapport à cette non-acceptation de moi-même, de ma maladie. Et j'ai l'impression que j'ai besoin que l'autre accepte cette part de moi. Et en même temps, je le dis tellement vite qu'on dirait que je ne me présente que comme ça. Je suis réduite à ça. Comme si je m'étais réduite à la psychiatrie. Je ne suis plus un être humain, je suis une maladie. Et la plupart des gens à qui je le dis très vite et avec qui je ne lis pas de longs contacts plus profonds me reprochent de le dire, me disent « il ne faut pas le dire, tu le dis beaucoup trop vite, ça fait peur ». Et par exemple, moi j'ai fait mon coming out en santé mentale dans mon boulot parce que j'avais été absente, puis j'avais besoin d'un mi-temps médical. Et je me suis sentie obligée, ça fait partie de ma pathologie d'avoir des élans de sincérité comme ça, de me sentir obligée d'être sincère avec tout le monde. Et j'ai été licenciée, donc voilà. Mais il y a eu quand même des aménagements avant le licenciement. Donc, mais que ce soit du côté amoureux, d'un compagnon possible, que ce soit dans les amis possibles, que ça a toujours coupé court aux relations. Et pourtant, je n'arrive pas à ne pas le dire parce que je suis encore dans cette quête d'acceptation de l'autre.
C'est chouette. Merci, Fatia. Oui, parce que dire ou pas dire, c'est aussi quand le dire, comme tu dis aussi, mais c'est aussi à qui le dire. Ce n'est pas du tout la même chose de dire ses difficultés à un employeur qu'à un ami ou un amoureux.
Non, c'est sûr, mais même toi, tu as eu ça à ton boulot. Moi, avant que je sache ce qu'il y avait, enfin, j'avais déjà eu ça il y a une dizaine d'années. Mon dernier boulot, c'est ce qui a fait que j'ai eu mon C4. Allez, je me rappelle, mon patron, il m'avait dit, pendant 2 mois, vous ne pouvez plus venir rentrer au magasin parce que vous faites peur aux clients. C'est un truc, quand j'y repense maintenant, je me dis, mais c'est quand même scandaleux. Et c'est des choses où les gens, ils ont une vision très, très distante du monde de la psychiatrie. J'espère que ça tend à changer. Mais où ça fait peur, au fait.
Ça fait peur ou c'est pas pris au sérieux.
Oui, c'est ça.
C'est soit ça fait peur, soit...
donne-toi un coup de pied au cul et ça ira mieux.
Oui, soit c'est tu le fais exprès, tu simules. Mmh. Tu simules un comportement. C'est ça, ouais. Et ça, c'est terrifiant. Quand c'est familial, c'est terrifiant.
Ou même avec des amis, ou même...
Ouais.
Alors, ce qui paraît être évident pour trouver pour des solutions ne le sont pas toujours. Moi, j'aimerais discuter un peu. J'ai pris le temps d'une réflexion par rapport aux préparations de la réunion d'aujourd'hui et au fait de dire et ne pas dire. Je pense qu'un patient qui présente des troubles liés à la santé mentale doit avant tout être informé de ce qu'est une maladie liée à la psyché. Je me suis posé la question de savoir si une maladie psychique était-elle une maladie de l'âme. Briser le tabou, l'interdit, c'est avant tout être en relation avec la réalité. Quand le patient a un problème, il consulte un thérapeute afin qu'il le conseille dans un objectif de rémission et de guérison. Psychologue, psychiatre, analyste, psychothérapeute, les manières d'approcher le médical sont nombreuses. Et pour qu'il y ait une relation de confiance, qui est la base juridique du droit des patients, entre le patient et le médecin, il faut que le patient qui part défavorisé par son trouble ou sa fragilité sorte gagnant et guérisse le plus vite possible et dans l'intérêt du patient. Par exemple, pour pouvoir se mettre sur le marché du travail plus facilement et ne pas recevoir son C4 trop rapidement, pour pouvoir avoir de bonnes relations avec ses amis, pour recevoir des solutions aux aides qu'on demande. Et il s'agit d'un investissement financier, donc tout ça coûte beaucoup d'argent. Et il s'agit surtout du développement de la personnalité d'une personne, parce que la personne se développe aussi au cours de son existence. Et si cela ne va pas, il peut y avoir un conflit d'intérêts et des erreurs ou des fautes professionnelles commises. Possible. Ne pas informer son patient ou mal informer peut l'être nuisible. Alors, ce n'est pas la question d'informer, c'est aussi la question de la communication qui est très importante. Je pense que le patient doit de bien être au courant de sa maladie, de l'évolution probable de sa maladie, et qu'il ne s'agit pas pour le thérapeute de se contenter de donner des informations vagues et subjectivisées par des diagnostics liés à des classifications sans comprendre qu'il faille aussi tenir compte des médications et des effets secondaires nuisibles liés aux médicaments.
Merci Gwendoline.
On fait une petite pause, hein. Comme ça on va écouter Plaid maintenant, et c'est parti.
Voilà. Alors, retour en studio, c'est Silence Radio sur les ondes de Radio Panique. Nous sommes ensemble ici, plein d'usagers pour parler de cette question. Donc, dire ou ne pas dire le coming out en santé mentale. Et on a parlé de plein de choses tout à l'heure. Donc, on a parlé du quand dire, que dire, trouver les mots pour le dire, Valérie. Donc, d'abord, s'accepter soi, accepter son diagnostic, ses difficultés, appeler donc comme vous voulez. Et moi, j'ai envie de rebondir quand même sur ce que Valérie disait avec les mots qui ne sont pas toujours faciles à trouver. Est-ce que ça joue dans le fait d'avoir des difficultés ou pas à parler simplement de soi et de ce qu'on vit?
Oui, je trouve. En fait, moi j'ai mis 10 ans, 15 ans, presque 20 ans à chercher les mots, pouvoir décrire, pour pouvoir me réapproprier moi-même. Et donc, effectivement, ce que je peux dire aujourd'hui aux autres, ce que je peux dire par rapport à moi-même, ça a été un chemin, un énorme travail de facilement 20 ans. Et quand je n'avais pas les mots, ça contribuait à couper les liens aux autres, à couper les contacts.
Je crois que ça... Moi, j'ai eu le même souci. Le même souci, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a pas les mots ou les mots les plus justes, qui ne sont pas toujours évidents, eh bien, il peut y avoir la création de tabous. Hein, ça nous coupe des relations. Or, briser le tabou, c'est aussi être en relation avec la réalité. Et je crois que c'est intéressant de savoir aussi, de trouver... les mots les plus justes qui n'enclavent pas les personnes dans des clichés ou des préjugés ou des stéréotypes qui peuvent être subjectivisés par des manières de regarder une situation, alors que le regard qu'on porte sur une maladie s'arrête parfois là où le regard de l'autre ne l'admet pas. Ou d'analyser une situation avec laquelle on peut confronter le regard qu'on porte sur sa maladie ou comment être objectif alors que nous sommes tous des êtres particuliers aussi. Ce qui n'est pas évident, la majorité des êtres ne sont pas des êtres de droit, de raison et de passion. Et je crois qu'il existe aussi, parce que bon, moi je me présente aujourd'hui avec des difficultés, mais aussi avec quelqu'un qui est diplômé d'un bachelier de droit. Et je crois qu'il existe des lois et je crois que c'est aussi le droit des patients doit être respecté et leur application dans la pratique, il faut soulever le tabou également dans le milieu de la psychologie ou de la psychiatrie. Tout le monde comprend aussi également que voilà, il ne faut, je voulais débattre peut-être un peu des relations qu'il existe aussi entre comment penser qu'il ne faut pas négliger la relation du corps et de l'esprit et que le mot psyché vient du mot âme qui est en relation aussi avec mind en anglais qui veut dire esprit et voilà, je pense que c'est important de ne pas oublier la relation entre l'âme et le reste des par exemple le corps ou la personnalité ou
Ouais. J'ai envie de dire à propos des mots, j'ai l'impression que les mots de la psychiatrie ou de la santé mentale minimisent la personne, donc d'office comme ça, d'emblée en fait. Donc c'est logique quelque part qu'on ait des difficultés à utiliser ces mots-là. Il faudrait par exemple trouver un autre dictionnaire en fait des difficultés. Et pour pouvoir peut-être parler plus facilement de ce qu'on vit. Parce que si on arrive et qu'on dit bonjour, comme beaucoup l'ont fait, et moi je l'ai fait aussi, bonjour, je vous serre la main, je suis bipolaire, ça va pas le faire.
Ça va non, pas le et, faire. Et en plus, ça, c'est des mots qui sont peut-être plus repris dans le DSM, je sais pas, au quatrième ils sont, qui est quelque chose qui m'insupporte, qui peut être intéressant pour écrire, mais pas pour le reste. Mais... Et c'est juste mettre chaque fois des gens par rapport à que ce soit une pathologie ou que ce soit même juste des idéaux, les mettre dans une case et leur dire toi tu seras ça, toi tu seras ça, toi tu seras ça, et toi t'es encore plus loin que ça, donc tu prendras ça comme médicament, mais tu pourras jamais faire ça dans la vie, tu pourras pas sortir, tu pourras pas t'amuser, tu pourras pas faire comme tout le monde, faut rester tranquille. Et c'est vrai que c'est un problème quand on sort de l'hôpital et qu'on vous dit ça pendant tout le temps que vous êtes à l'hôpital, de rester sérieux, de faire gaffe. Après, pour reprendre la vie normale, ça prend énormément de temps, parce que comme tu disais, je sais pas si c'est les gens, les psychiatres ou peu importe, ou si c'est le système qui veut ça, mais ça détruit un peu la personnalité qui était en phase de construction et qu'il faut reconstruire après. Et que c'est là où je me dis peut-être pas les mots, parce que moi on m'a dit bipolaire, borderline, maniaco-dépressif, les mots ils changent avec le temps en psychiatrie, c'est assez marrant d'ailleurs. Mais
C'est moins barbare de dire
Christophe, ouais.
Bipolaire, c'est plus doux que de dire maniaco-dépressif, quoi. Maniaco-dépressif, c'est vraiment barbare, quoi.
Ah, moi, je préfère dire que Warhol était bipolaire, qu'il y a quelques artistes, quelques hommes, grands hommes politiques ou quoi, qui l'étaient et qui avaient aussi des problèmes et qui ont fait des grandes choses.
Einstein également.
Voilà, c'est des choses qui peuvent...
Michael, tu voulais peut-être intervenir. Il reste 2 minutes avant de passer à la rubrique de Gwendoline.
D'abord, je vous remercie de m'avoir invité pour cette émission radio. Je suis vraiment très content et ça me touche de parler de ce sujet qui me tient fort à cœur. Et donc voilà, écoutez, moi, en ce qui concerne de le dire ou pas dire, je pense qu'il faut pouvoir parler de sa maladie, de ses difficultés, de sa faiblesse, mais pas à n'importe qui, je pense. Il faut pouvoir mesurer le poids des mots et ne pas le dire à n'importe qui, bien entendu. S'afficher devant un employeur en disant qu'on est malade, ça ne va pas du tout se le faire. Et dire à quelqu'un qu'on rencontre d'emblée, qu'on ne connaît pas, qu'on est malade, ça ne va pas d'aller, ça va pas aller. Donc, il faut être toujours prudent dans sa communication, faire preuve de retenue, se protéger et parler avec... modestie, mais une modestie dans le sens se protéger. Et voilà, moi je trouve que c'est très important de la façon dont on communique, se communique nous-mêmes par rapport aux gens, aux interlocuteurs. Pardon. Mm-hmm.
Bien choisir son public, quoi. Voilà. Mm-hmm. Ouais.
Merci, on va passer maintenant à toi Gwendoline pour ta rubrique littéraire.
Bonjour, bonjour, aujourd'hui il s'agit d'une rubrique de littérature un peu particulière, une rubrique un peu instantanée où nous découvrirons avec l'auditeur un auteur célèbre à l'antenne par la lecture d'un extrait d'un grand poète lituanien de langue française. Et nous avons décidé d'inviter un écrivain belge, Daniel Swile, qui est là parmi nous, pour lire un texte choisi et qui a publié de nombreux livres, notamment Petite Plaisance chez Méo Éditions. Bonjour Daniel, merci d'être avec nous sur les ondes de Radio Panique.
Bonjour Gwendoline, bonjour à tous.
Vous êtes écrivain public engagé dans la justice sociale. Pouvez-vous nous parler de vous en quelques mots et de votre métier d'écrivain, d'écrivain public et de votre engagement ?
Oui, oui, oui. Le thème de l'émission, c'est dire ou ne pas dire. Alors j'ai envie de vous poser une question un peu différente. C'est écrire ou ne pas écrire ? Puisque dans mon métier, c'est pas mon métier, mais c'est mon travail actuellement. Je suis retraité par ailleurs. Je suis à la bibliothèque communale d'Ixelles tous les mardis matins pour aider les personnes qui ont des difficultés à écrire une lettre ou un texte, généralement quelconque. Donc il y a des personnes qui viennent parce qu'elles ne connaissent pas bien le français et qu'elles veulent vérifier avec moi si la lettre est bien écrite. Il y a ceux qui écrivent parfaitement des lettres mais qui ont besoin d'un regard extérieur qui leur dit « oui, vraiment, cette lettre-là, elle est bonne ». Et il y a ceux aussi qui viennent, ils sont tellement indignés par la situation qu'ils veulent décrire dans la lettre qu'ils ont besoin d'une oreille ou d'une écoute extérieure pour temporiser et finalement écrire une lettre qui soit bien adaptée à l'interlocuteur. À côté de ça, et là je me rapproche de Gwen, il y a des personnes qui viennent parce qu'elles sont elles-mêmes créatrices dans l'écriture et veulent donc... qu'une discussion commence entre elle et moi sur le texte qui a été écrit. Est-ce un bon texte ? Est-ce une bonne poésie ? Comment l'améliorer ? Quelles sont vos idées ? Et c'est comme ça que j'ai rencontré Gwen. Et donc ça me fait très plaisir d'être à Radio Panique ce soir avec elle pour lire un poème qui n'est pas d'elle, bien qu'un jour, certainement, cela va venir. Elle est très perfectionniste et elle veut absolument que ce soit parfait, ce qu'un poème n'est jamais d'ailleurs. Mais donc nous avons choisi un poème écrit par un poète d'origine lituanienne qui s'appelle Miloš. Et j'espère que cette lecture à deux voix va vous plaire.
Alors on va commencer la lecture et je propose que vous commenciez.
D'accord.
Donc c'est un texte qui s'intitule... La berline arrêtée dans la nuit.
En attendant les clés, il les cherche sans doute parmi les vêtements de Thècle, morte il y a 30 ans. Écoutez, madame, écoutez le vieux, le sourd murmure nocturne de l'allée.
Si petite et si faible, deux fois enveloppée dans mon manteau, je te porterai à travers les ronces et l'ortie des ruines, jusqu'à la haute et notre porte du château.
C'est ainsi que l'aïeul jadis revint, de Vercelli avec la morte. Quelle maison muette et méfiante et noire pour mon enfant. Vous le savez déjà, madame, c'est une triste histoire.
Ils dorment dispersés dans les pays lointains depuis 100 ans. Leur place les attend au cœur de la colline. Avec moi, leur race s'éteint aux dames de ces ruines.
Nous allons voir la belle chambre de l'enfance, là. La profondeur surnaturelle du silence et la voix des portraits obscurs. Ramassée sur ma couche, la nuit, j'entendais comme au creux d'une armure, dans le bruit du dégel, derrière le mur, battre leur cœur.
Pour mon enfant peureux, quelle patrie sauvage! La lanterne s'éteint, la lune s'est voilée, les frais appellent ses filles dans le bocage, en attendant les clés.
Dormez un peu, madame. Dors, mon pauvre enfant, dors, tout pâle, la tête sur mon épaule. Tu verras comme l'anxieuse forêt est belle dans ses insomnies de juin, parée de fleurs, ô mon enfant! Comme la fille préférée de la reine folle.
Enveloppez-vous dans mon manteau de voyage. La grande neige d'automne fond sur votre visage. Et vous avez sommeil. Dans le rayon de la lanterne, elle tourne, tourne avec le vent, comme dans mes songes d'enfant. La vieille, vous savez, la vieille.
Non, madame, je n'entends rien. Il est fort âgé, sa tête est dérangée. Je gage qu'il est allé boire. Pour mon enfant craintive, une maison si noire. Tout au fond du paysage lituanien, non, madame, je n'entends rien.
Maison mort, noire, serrure rouillée. Sarment mort, porte verrouillée, volet clos, feuille sur feuille depuis 100 ans dans les allées.
Tous les serviteurs sont morts, et moi, j'ai perdu la mémoire.
Pour l'enfant confiant, une maison si noire. Je ne me souviens plus que de l'orangerie, du trisaïeul et du théâtre. Les petits du hibou y mangeaient dans ma main. La lune regardait à travers le jasmin. C'était jadis.
J'entends un pas au fond de l'allée. Ombre, voici Witold avec les clés.
Merci.
Merci à vous.
Bonne lecture.
Est-ce que je peux intervenir ?
Miloš, voilà.
Je ne suis pas tout à fait prêt, mais je vais essayer de faire mon possible. Je suis un peu fatigué pour le moment, dans cette période. Alors, c'est dire ou ne pas dire, ben, il faut que je dise, parce qu'il faut que je dénonce même. J'ai un remède contre le cancer en général. C'est très efficace. On peut en trouver en herboristerie, ça sauve des vies. Voilà, le problème, c'est que il faut que je le dénonce donc. Hein. Le fait que le graviola soit interdit de vente en pharmacie, dire, pas dire, il faut quand même. Hein. C'est un complément alimentaire, hein, donc c'est interdit en pharmacie en Europe. Le graviola est 10 000 fois plus puissant que la chimiothérapie agressive. La plante s'appelle le corosol. Corosol. Elle nous vient des pays chauds. Voilà, je ne suis pas tout à fait au point, mais c'est quand même...
C'est pas grave, c'est une petite info entre parenthèses.
J'ai un ami qui est passé d'énormes lymphocytes à beaucoup moins. Ça lui fait du bien. J'ai un ami qui me dit oui, mais moi je ne suis pas médecin, mais voilà, j'ai fait mon petit truc. Tout à l'heure, je devrais encore intervenir pour autre chose. Merci.
Merci Christophe. Voilà. On reprend notre discussion de tout à l'heure, c'est pas sur la façon de dire ou de ne pas dire nos difficultés en santé mentale, notre diagnostic éventuellement. La façon de dire, est-ce qu'il faut le dire ? Est-ce qu'il faut le dire à tout le monde ? Est-ce qu'il faut choisir les personnes à qui on le dit ? Est-ce qu'il faut choisir le moment à qui on le dit ? Les mots avec lesquels on va le dire ? On a parlé de tout ça, il y a peut-être autre chose que vous avez envie de partager, oui, Fatia ?
Mais moi, je poserais la question, pourquoi on le dit ? Est-ce qu'on le dit pour soi, pour se rassurer ? Par des excès de sincérité parfois pathologiques ? Ou est-ce qu'on le dit pour protéger l'autre de soi ?
Moi, je me demande si c'est pas... Comment dire, si on le dit en même temps à un certain moment pour soi, peut-être pour les autres et protéger les autres de soi, et aussi pour se comprendre. Et puis j'aspire et j'espère que même si on le dit parfois trop, pas grave, il y a tellement de gens qui disent plein de choses trop et qui n'ont rien à voir et qui sont parfois inintéressantes, que le dire c'est aussi démystifier un peu tout ce monde de la psychiatrie qui est un peu vu bizarrement par les gens qui ne sont pas passés par là. Enfin, moi-même, je peux le parler. Quand je suis arrivé la première fois en psychiatrie, j'ai dit à mon médecin généraliste, ah, moi, je rentre pas là-dedans, c'est pour les fous. Hein. Moi, je suis pas fou. Et pourtant, j'ai vécu pas mal d'humanité là-bas. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et je me dis, le dire, oui, peut-être pour démystifier ce penchant où notre société arrive de plus en plus. Moi, c'était une discussion que j'avais avec Auré vendredi qui m'avait dit ça, ou je l'ai entendu d'ailleurs, mais c'est une société où la maladie psychiatrique devient de plus en plus fréquente. Et où donc, du coup, il serait peut-être intéressant de le démystifier, parce qu'à force d'avoir tout le temps des gens qui ont de burn-out, ou peu importe le diagnostic psychiatrique, ça ne doit plus être un truc fermé, où on montre les gens dans les asiles, ou dans les séries, on montre que les gens qui vont tuer, ou les méchants, c'est des gens qui ont des problèmes psy. Peut-être essayer de démystifier la chose, et de montrer la belle chose que ça peut apporter aussi. Et l'autre question que je me posais aussi par rapport au fait du titre de l'émission que vous avez utilisé comme coming out, moi je me suis posé une autre question dans ma vie à mes 20 ans, mais aussi sur un coming out, à me dire est-ce que je dois le dire ou le pas dire sur le fait que je sois gay. Mais le fait qu'il y ait eu le combat gay avant et les premières prides ont fait que je me suis dit je dois le dire. Tandis que pour le mouvement de la psychiatrie, il y a des combats qui sont faits, mais il n'y a pas eu des grandes marches de fierté ou des choses qui ont été faites en disant ben, « je le suis » et vous en fichez, vous n'avez rien à dire sur mon cas. Et donc ça, je me dis, est-ce que ce ne serait pas intéressant à un moment de faire ça ? De se dire « on l'est, de toute façon, on ne sait rien y changer, on essaye d'améliorer les choses, mais on n'y peut rien, donc on en est fier. »
Oui, je pense que le titre est inspiré du mouvement gay où, en faisant le coming out, en fait, ils ont cassé un tabou. Ça a été un très long, et c'est encore un dur travail de casser ce tabou. Ça casse du coup la honte qui n'est plus ou qui n'a absolument pas lieu d'être. Et ça donne une liberté énorme. Et je pense que ce travail est à faire en psychiatrie, n'est pas encore fait.
Merci Valérie.
Je peux reprendre la parole ?
Oui, vas-y Bergen.
Moi je voudrais dire, communiquer ou ne pas communiquer, parce que c'est important. Parce que dans le mot communiquer, nous avons le mot commun. Aussi, on pourrait dire communion. Mais tout le monde n'est pas prêt à être dans la communion et être dans le commun. Et ça, c'est très important. C'est que moi, je pense que c'est très important, comme j'ai parlé là tantôt, de se préserver soi. C'est très important. Donc, ça veut dire que moi, je vais parler de mon cas, mais moi, je n'aime pas trop parler de mes problèmes qui me sont personnels. Mmh. Parce que, en fait, ça, ça part dans les dérives, souvent. Enfin, les pensées des gens partent souvent en dérive. Et ça, je regrette très fort, mais c'est ainsi. On ne peut pas changer le monde. Il est comme il est. On ne peut pas changer les gens dans la société. Donc, pour moi, communiquer ses faiblesses, c'est quand même quelque chose de où il faut bien réfléchir avant de parler devant les gens. Et c'est vraiment très, très important de ne pas le faire n'importe comment et surtout se préserver. Et je pense que les seules personnes envers qui je le dirai vraiment, ce seront les médecins qui sont aptes à comprendre ce que c'est. Et même eux, parfois, ils sont aussi dans l'erreur. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas évident en parler à la famille, aux parents, à la maman, au papa, ça c'est tout à fait différent. Mais si on va commencer à en parler à quelqu'un qui est très important pour nous, je ne le recommande pas du tout.
Voilà, mais moi personnellement, en tant que père aidante, je suis amenée justement à le dire autour de moi. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse.
Tout à fait.
C'est exact, je pense. Je pense qu'il est temps maintenant de laisser la parole à Thomas, qui nous a préparé tout un texte. Vraisemblablement, je ne l'ai pas lu, mais je suppose qu'il est super intéressant, puisqu'il s'agit d'un texte sur le coming out des stars.
Entre autres. Donc, je pense que l'introduction n'a un petit peu rien à voir avec ça, mais c'est pas grave.
Oh, pardon.
Non, c'est rien. Est-ce qu'on ne veut pas tous se cacher, brouiller son visage, rendre ses regards admissibles, les postures des corps, comme les traits des visages, ne sommes-nous pas tout le temps en train de les revêtir, mais y a-t-il quelqu'un derrière ce vêtement, ne serait-ce pas trop mouvant, trop fugace pour qu'on puisse s'en saisir? C'est obsédant, non, avoir une peau au fil des passages? Peut-être que vous avez déjà eu cette sensation d'avoir la peau ouverte à tous les vents, d'avoir les sens troubles et en attente, abandonnés comme en rêve sur la houle d'autres sens éveillés. Est-ce un réflexe normal de se tâter, de se palper? Et n'a-t-on pas besoin des autres pour le faire? Et n'est-ce pas par les autres que notre peau nous est propre? Un être humain qui aurait grandi seul sur une île déserte a-t-il conscience de son corps? Ou bien son corps dépend-il des arbres, des rochers, des rivières qu'il a croisées? Les voix publiques, les visages télévisuels, les allures et les poses des influenceurs sur les réseaux sociaux, toutes les personnes dont le travail est en partie d'être regardées, interrogées sur leur vie, et que le public affectionne, réclame ou s'amasse à la proximité, à l'affût d'un bonjour, d'une poignée de main, d'un simple sourire, d'un regard. Les stars, comment les percevons-nous? Sur les écrans, leur bien-être est communicatif, c'est à peine croyable, c'est du travail aussi, aujourd'hui, de communiquer. On s'y prend tous au jeu, non? C'est si facile, ce monde virtuel d'ego qui s'entraîne les uns les autres. Comment en êtes-vous arrivé à ce degré de maîtrise dans votre jeu, monsieur la star X? Dans ce film, je tiens à vous le dire bien en face, vous êtes époustouflant, sensationnel. Entre nous, vous attendez quoi encore de votre carrière? Franchement, les yeux rivés sur l'écran, vous y laissez emmener, non? Et puis, que s'est-il passé? Ce qui, auparavant, ne se disait pas, aujourd'hui se livre à des millions, voire à des milliards de téléspectateurs. Maria Carré parle de sa bipolarité, un humoriste reconnu, Pete Davidson, parle de sa dépression, Lady Gaga de son stress post-traumatique. Les cas des personnalités publiques qui font état de leurs troubles se multiplient ces dernières années. Bon, je l'avoue, je n'y connais rien en Star System. Je me dis souvent que jamais je ne voudrais devenir une célébrité. Les questions des journalistes sont trop souvent intrusives. Et qu'est-ce que cela doit être lorsqu'on est connu de traverser les rues de sa ville sous trop de regards appuyés? Pour moi, cette parole publique est à double tranchant. Elle participe à la déstigmatisation. Pour le grand nombre de fans qui vont sans doute faire des recherches sur le trouble et être conduits à plus de tolérance. Ce n'est pas rien, ça pourrait même être énorme. Imaginez si la parole s'ouvrait dans les milieux politiques, militaires même, ou même au sein des institutions religieuses. Par contre, la mode, je m'en méfie, lorsqu'on est fan, j'imagine qu'on idéalise les stars. Et selon moi, la bipolarité, la dépression, la psychose ne sont pas des troubles qu'il est bon d'idéaliser. C'est très concret, c'est quelque chose vers lequel avec lequel on doit vivre dans tous les aspects les plus prosaïques de sa vie quotidienne. Lorsqu'on fait ses courses, sa lessive, quand on boit un verre avec ses proches, ou d'autres situations banales. Ce serait contre-productif à la stigmatiser ce serait contre-productif à la stigmatisation de lier, dans l'exemple de Maria Carré, sa bipolarité et sa vie d'artiste, et d'en tirer la conclusion que la souffrance induite par sa bipolarité est le lot de sa créativité. Je n'ai jamais entendu dans la bouche d'une personne souffrant d'un trouble psychique que ce qu'elle vivait était glamour. Et voilà.
Merci Thomas, super.
J'ai une petite annonce à faire
qui
va faire du bruit. Moi, ça fait une dizaine d'années que je le sais, j'ai 53 ans. Donc j'ai appris il y a un peu moins de 10 ans que j'étais le fils illégitime du roi Albert II. Voilà, c'est dit. Je dis bonjour, bonsoir même à ma demi-sœur Delphine Boël. Alors, le dire ou pas le dire, pour rester dans le sujet, c'est que il y a des gens qui me croient, des gens qui me croient pas, ils me prennent pour un fou ou pas, ça dépend. J'ai des amis qui me croient, c'est bien, je suis content. Voilà, donc je suis Thierry Courbeau, je suis fils illégitime du roi Albert II. Et à la radio, bon, on n'en parlera plus.
Parce que le roi Albert...
Ouais, mais je ne suis pas riche du tout. Hein. C'est même dur. Hein.
Je ne sais pas si c'est un avantage. Hein.
Voilà. Bon, cette parenthèse, je la ferme et on verra bien ce qui se passe. Merci.
On verra bien ce qui se passe. Il y a quelqu'un d'autre qui a envie de faire une petite parenthèse info comme ça puisque nous avons encore au moins une ou deux minutes.
Moi j'ai une parenthèse oui. info, mais pour un lieu que je crois qu'autour de la table pratiquement tout le monde connaît et qui va avoir 10 ans. Mais ça c'est un truc à dire et à ne pas cacher. Mais voilà, le Pianoctel au mois de février fête ses 10 ans et il y a quand même... ouais, et on a quand même récupéré un bail pour 9 ans, ce qui est bien de le dire aux auditeurs de Radio Panique. C'est dans les Marolles, rue Haute 304 rue Haute.
Ah d'accord. Donc, ça c'est
Mille Bruxelles. Okay. Et donc, on va faire une fête de 3 jours qu'on a commencé à organiser hier. Donc, le vendredi 21 février, il y aura soirée dansante avec DJ. Et donc, venez pour vous déhancher sur la piste et tout ça. On ne sait pas jusqu'à quelle heure ça va durer. On verra bien. Le lendemain, le samedi, à partir de 14h, il y aura des concerts avec en plus Aline qui fera une expo de ses 10 ans d'affiches qu'elle a fait au Pianoctel. Et plus parler de l'ABCDR et les gens qui parleront de leurs activités, plus encore des concerts après, que ce soit avec le Piano Mike ou d'autres gens. Et le dimanche, là, il y aura, comme d'habitude, à partir de 13h, la brasserie. Et en plus, quelqu'un qui jouera au Pianoctel. Donc le Pianoctel fonctionnera. Donc si vous avez envie de goûter les musiques que le Pianoctel peut nous offrir en cocktail, bah venez le week-end du 21, 22, 23 février au 304 rue Haute.
Avec un cocktail à la clé.
Oui, toujours, hein, quand c'est joué.
Génial.
Voilà.
Moi, je vais vite vous parler de la 12e rencontre Image Mentale qui se déroule du 6 au 14 février. Et donc, c'est un regard sur la folie. Il y a des projections, des débats, des spectacles et des expos. Et c'est chaque année en février à l'espace Delvaux. C'est la Vennerie qui accueille les rencontres images mentales. C'est organisé par Psymage en collaboration avec l'autre lieu, la LBFSM et le Point Culture. Ces rencontres proposent des projections de fiction, de documentaires, de courts-métrages et de films d'atelier. Des projections, mais aussi des spectacles, des débats, des rencontres pour explorer les images de la folie, de la personne en état d'étrangeté ou de la souffrance psychique, où la souffrance psychique émaille les quelques jours de ce rendez-vous annuel. Et voilà.
Voilà pour les infos santé mentale. D'autres infos santé mentale, peut-être donc. Moi, j'ai une petite info, un nouveau-né, en fait, une bienvenue. On fait bienvenue à ce nouveau-né qui s'appelle Skive News. C'est un petit nouveau dans le monde de la presse bruxelloise. Skive News, c'est un magazine trimestriel, papier et électronique, bilingue, que vous trouverez gratuitement à différents endroits clés du réseau, comme les hôpitaux, les centres de santé mentale, les maisons médicales, les plannings familiaux, les initiatives d'habitation protégée ou encore les maisons de soins psychiatriques. C'est un projet de la plateforme de concertation en santé mentale de Bruxelles via leur groupe Interface, donc qui est un groupe qui réunit des proches et des usagers. Le Skive News entend s'adresser à tous, que ce soit les proches, les usagers, les professionnels et pourquoi pas les citoyens lambda. Alors, but de la manœuvre, apporter une information claire sur la santé mentale bruxelloise, éviter le jargon et l'obscurantisme. Notons au niveau du contenu, plic-ploc, ça c'est pour Valérie, plic-ploc, la présentation de la plateforme par Hassan Moussa, donc un article en page 2. Et puis nous avons un coin poésie, avec une poésie de Valérie Muller. Le thème central, la semaine de la santé mentale, qui a eu lieu donc fin de l'année précédente, 2019. Un témoignage, le témoignage d'Alice, qui a réussi à arrêter de boire. Il y a un coin lecture aussi, signé Jean-Paul Noël. Et puis aussi, important, une carte avec des adresses utiles. Donc, bienvenue, Skive News, un nom bien bruxellois qui donne et qui donnera, je l'espère, en tout cas, un espace de parole à tous les usagers dont nous sommes beaucoup ici présents. Voilà. Il est 17h52, nous avons encore un peu de temps pour parler de notre thème d'aujourd'hui.
Dire ou ne pas dire.
Dire ou ne pas dire, comment dire, pourquoi dire.
J'y ai pensé un petit peu, comme ça, tu m'as appelé hier par SMS et pour me demander si je venais, j'ai dit oui, voilà, bon. Par exemple, en cas de harcèlement, dire ou ne pas dire, je pense qu'il faut le dire à la personne le plus vite possible pour dans l'œuf, quoi, étouffer le truc dans l'œuf. Et je sais plus, j'ai perdu le fil. Mais disons que si ça ne marche pas seul, en privé, quoi, il n'y a pas besoin de faire plus, on peut aller à deux. Mmh. Voilà. Et si ça ne va vraiment pas, on va voir le patron.
Gwendoline, tu veux ?
Je voulais dire quelque chose qui est un peu banal, mais quand même intéressant. Je voulais dire ou ne pas dire, ne pas oublier qu'on est tous des êtres vivants qui ont des nécessités, des intimités, des regards, des passions, des projections, des représentations, des symboles et des envies qui sont importants dans la question de la réalisation de soi et qui n'est pas toujours facilité. Bon, on parlait par les médicaments, par le regard des autres, sans oublier des choses qui sont essentielles en fait, à l'unité de l'être.
Moi, je voulais revenir sur quelque chose qu'avait dit Michael. Il avait dit que lui, enfin, on a deux extrêmes ici. Il y a Yannick et moi qui le disons trop et Michael qui ne le dit pas. Et je trouvais un peu particulier de ne pas le dire aux proches, aux très proches, aux gens avec qui on a envie de faire notre vie, que ce soit des amis, des amoureux, la famille et tout ça. Enfin, la famille, tu disais que tu le disais, mais.
Oui, disons plutôt aux gens proches.
Aux proches. Ouais. Et n'est-ce pas un des premiers désirs humains de se faire accepter comme on est entièrement
oui.
et complètement mmh. Et est-ce que la pathologie ne fait pas partie de notre personnalité? Alors ça, c'est toute une question sur la psyché. Est-ce que c'est une maladie de la psyché? Est-ce que c'est une maladie de l'âme? Est-ce que c'est une maladie purement biochimique
Mais là où je suis un peu réticent, c'est quand on dit que ça fait partie de la personnalité. En fait, je ne suis pas du tout d'accord. En fait, on ne doit pas se définir par rapport à la maladie. On n'est pas la maladie, en fait. On est l'expression de la maladie. Enfin, on a une maladie, c'est quoi? C'est l'expression d'un mal-être. Mais on n'est pas la maladie. Et c'est pour ça que moi, je trouve qu'on confond souvent ce qu'on est et la maladie, parce qu'on apprend à s'identifier nous-mêmes par rapport à ce que l'on n'est pas finalement.
C'est un trouble neurologique et c'est un trouble chimique avant tout.
C'est un trouble chimique et neurologique, mais qui vient d'un mal-être au départ.
Ah, toi, tu crois que c'est acquis ?
C'est acquis pour moi. Pour moi, c'est ça, c'est un fait, c'est que.
Ça peut pas être un peu des deux. Enfin, la question se pose beaucoup dans les ouvrages scientifiques de savoir si c'est inné.
Mais pour moi, c'est pas une évidence que ça sort de notre ADN, la maladie. C'est pas en naissant qu'on l'a automatiquement. Non, c'est quelque chose qui se construit. Au cours de notre enfance. Enfin, le mal-être se construit au cours de notre enfance.
Moi, je ne serais pas aussi radical.
Je ne suis pas radical. Je pense que simplement, d'après ce que moi j'ai vécu, ce que je pense, mon expérience personnelle, je pars à partir de mon expérience personnelle et je ne tiens pas à contredire tous les médecins et tout ça dans leurs études et leurs sciences et tout ça. Je ne suis pas là pour ça, mais je suis là simplement pour parler de mon expérience personnelle. Et dans mon expérience personnelle, je sais que on m'a classifié pour moi, allez, vous êtes malade, vous devez prendre les médicaments à vie. Donc voilà. Donc pour moi, à partir de ce moment-là, on rentre déjà dans une case et on nous empêche de sortir de cette case. Et ça, c'est là qu'est le danger, en fait.
Mais par rapport à ça, je voudrais dire, justement, j'aimais beaucoup l'expression de Pascal, créer un nouveau dictionnaire. Mm-hmm. Parce que moi, je ne veux plus m'engager dans ces discussions de diagnostic qui appartient à certaines personnes et je me dis, mais oui, moi je crée mon nouveau dictionnaire pour pouvoir en parler à ma façon, petit à petit, et pour pouvoir aussi ouvrir de nouvelles portes par rapport aux solutions.
Et moi je pense, peut-être pour conclure, moi je pense que tout ce qui s'est dit est hyper intéressant et tout le monde a aussi son parcours de vécu, a aussi sa manière dont il le vit et la manière dont il le ressent. Et que ça c'est aussi dire ou ne pas dire, de toute façon il y a toujours des choses qu'on ne dit pas. Et que c'est chacun, on fonctionne avec sa manière de comment appréhender la chose et le problème de la psyché. Et c'est au fur et à mesure du temps aussi où les choses, on les voit différemment et chacun va à son rythme. Et c'est peut-être parfois ça qui est difficile à vivre là-dedans. C'est que parfois on voit des gens qui prennent les mêmes médicaments que nous, ont les mêmes choses, vont mieux et puis nous on va très mal. Mais voilà, et c'est juste... Moi, quand je dis qu'il faut le dire, c'est juste vraiment l'idée de démystifier et que les gens arrêtent d'avoir peur de ce truc. Parce que même quand quelqu'un est diagnostiqué la première fois avec un problème psyché, quand il n'a pas connu de gens qui ont été autour de la psychiatrie, ça fait vraiment, mais vraiment peur. Mmh. Voilà.
Donc toi, tu prendrais une déstigmatisation à grande échelle?
Pas nécessairement à grande échelle, mais vraiment éduquer les gens par rapport à ce qu'ils n'en aient plus peur et qu'ils arrêtent de... les gens qui ne connaissent pas ça, de se faire vraiment, moi je m'en suis fait aussi beaucoup, mais vraiment beaucoup d'illusions négatives vis-à-vis des problèmes de la psyché, qui sont toujours montrés, que ce soit dans les bouquins ou la plupart du temps, enfin pas toujours, mais la plupart du temps, ou dans les séries ou les films, comme quelque chose de très mauvais.
J'aimerais dire...
Aurélie a envie d'intervenir. Pas du tout. Elle fait attention au temps, mais nous aussi, nous faisons attention au temps.
Elle levait le point.
Il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est la fin de l'émission. Rendez-vous dans un mois.
Et bonne année, on a oublié de leur dire.
Bonne année. C'est exact.
Beaucoup d'équilibre à tous. Hein.
Bonne année et rendez-vous le troisième lundi du mois.